une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 27 février, ravi de vous retrouver. 7 jours d'actualité internationale et française aussi, c'est maintenant avec les reportages de la rédaction. Évidemment, il sera question de l'Afrique après le flash et de vos messages. Notre invitée cette semaine est Flore Vasseur, elle est journaliste, documentariste, romancière aussi. En tout cas, elle observe l'évolution de notre monde contemporain. Bonjour Flore Vasseur.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro parce qu'avec vous, on va parler de l'actualité, non pas de l'actualité heureuse, mais des problèmes de l'actualité renversés en quelque sorte par des personnalités brillantes qui essaient d'améliorer en fait cette actualité. Donc le monde, par conséquent, vous mettez en valeur ce qui change le monde depuis quelques années, sinon.
Depuis à peu près 3 ans, effectivement, après avoir décrit le monde dans toutes ses noirceurs ou dans certaines de ses noirceurs, j'ai décidé que ça servait pas à grand chose, puisque de toute façon c'était sous nos yeux et que peut-être le travail à faire maintenant pour nous, journalistes, auteurs, réalisateurs, documentaristes, parents, profs, tous, c'était plutôt d'aller essayer de déterrer les pépites et de les mettre en valeur pour montrer que ça existait.
Alors, ce qu'il faut préciser, Flore, c'est que vous aviez un parcours brillant, vous l'avez toujours d'ailleurs, mais classique, HEC et ensuite le business à New York, mais il y a eu un certain 11 septembre 2001 et aussi l'explosion d'une bulle qui a changé quelque chose dans l'économie américaine. Et là, pour vous, c'est un déclic.
C'était l'explosion d'une bulle, c'était probablement le début de la fin d'un monde, et pour moi c'était la fin d'une certaine vie, effectivement, puisque je me suis trouvée témoin de ce 11 septembre dans une position particulière, puisqu'effectivement j'avais 24 ans, j'étais entrepreneur à New York dans la bulle internet, complètement dans un trip, je sais pas le dire autrement.
Vous dites ça en souriant, d'ailleurs, en y croyant à peine aujourd'hui. Bah, on a l'impression que c'est très loin.
C'est loin, mais je pense que le monde d'avant le 11 septembre est très loin pour tout le monde. Rappelez-vous, on était dans un monde euphorique, l'économie n'aurait pas de limites, on allait tous devenir brillants, tous connectés, riches, intelligents grâce à la technologie. La crise du climat, l'environnement s'était pas encore trop révélé. C'était vraiment la fin d'une époque. Et on s'en rendait pas compte. Et effectivement, le 11 septembre a marqué la fin de cette époque, le début d'une autre, et pour moi, la fin d'un parcours, d'un itinéraire, et puis le début d'un autre qui est plus lié à un certain questionnement sur, et à la fois ce monde qui se craquelait, et puis celui qui pourrait peut-être poindre. Mais c'est pas quelque chose, bien sûr, qui a été décidé du jour au lendemain. C'est une succession d'événements, de décisions, de choix. Et puis, j'ai eu l'énorme chance de rencontrer l'écriture qui m'a tiré de là, finalement.
Et ça a marché, d'ailleurs.
C'est un bon support pour à la fois découvrir le monde, l'explorer et le raconter, oui.
Alors on verra aussi qu'il y a eu des films, vous en êtes à votre troisième film diffusé sur Arte, le prochain est diffusé la semaine prochaine, on va y revenir. Donc vous utilisez tous les moyens.
L'idée, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si on a la chance de pouvoir écrire, il y a effectivement tous les supports possibles. Le roman en est une, le journalisme en est un autre, l'interview, les chroniques, les reportages et bien sûr le film. Alors aujourd'hui c'est documentaire, mais il se trouve que j'écris aussi des scénarios de séries fiction qui sont pas encore diffusées. Mais voilà, la question est vraiment de pouvoir raconter une histoire intelligible sur ce qui se passe. Et les outils et pardon les supports n'ont pas tous le même objectifs, n'ont pas tous, entre guillemets, la même cible. Si j'étais publicitaire, je le dirais comme ça. Mais voilà, faut arrêter de croire qu'on a une discipline et pas l'autre. Quand on a quelque chose, quand on a envie de dire quelque chose, tout existe.
Sept jours dans le monde.
Alors écoutons deux voix pour commencer cette émission, Flore Vasseur. D'abord celle de François Hollande en Polynésie, étape d'une longue tournée d'une semaine qui l'a conduit dans le Pacifique et en Amérique latine. En Polynésie donc, où il a dit ceci.
Sans la Polynésie française, la France ne se serait pas dotée de l'arme nucléaire. Et donc, de la force de dissuasion. Alors cette contribution, celle que vous avez vous-même apportée à travers les essais nucléaires, je veux la reconnaître solennellement aujourd'hui, devant vous. Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires Et aussi, et c'est un paradoxe, entraîner des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé.
Alors, autre voie maintenant, celle de la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussiaud, après la validation par la justice administrative jeudi de l'arrêté d'expulsion d'une partie des réfugiés de Calais, expulsion en douceur, semble-t-il.
On prendra le temps. Le tout, c'est que la démarche soit engagée. Après, une fois qu'une démarche s'engage, quel intérêt d'annoncer une date butoir? Le tout, c'est qu'on sait qu'on arrivera au bout. Et c'est ça qui est important. Nous allons continuer le travail engagé, par le biais notamment de toutes nos maraudes sociales. Je souhaite que les associations puissent nous rejoindre dans ce travail de proximité. Certaines le font déjà, hein, mais qu'il y ait vraiment un courant associatif qui vienne nous aider, comme cela s'est déjà produit, hein, pour une première bande d'environ 3-4 hectares que nous avons libéré, hein, pour des raisons de sécurité. Si les associations viennent à nos côtés, tiennent le même discours que nous, eh bien, à ce moment-là, ce sera une réussite. Le concours de la force publique n'y aura nul besoin, puisque nous allons agir par la persuasion et que nous avons déjà libéré 4 hectares sans aucun concours de la force publique.
Une semaine d'actualité donc. Merci de votre fidélité, à écouter et à podcaster aussi sur notre site rfi.fr. Alors avant de vous retrouver, Flore Vasseur, partons maintenant pour la Grande-Bretagne après de nouvelles concessions européennes en faveur de David Cameron, le Premier ministre, qui en juin demandera aux Britanniques s'ils veulent ou non rester dans l'Union européenne. En tout cas, le maire de Londres, le conservateur Boris Johnson, votera, lui, pour la sortie. Correspondance de Muriel Delcroix, lundi.
Piqué au vif par la défection très médiatisée de Boris Johnson, le Premier ministre a choisi d'affronter bille en tête son plus dangereux opposant à un maintien britannique dans l'Union européenne. Devant les députés, David Cameron a ridiculisé l'idée lancée par le maire de Londres qui semble vouloir voter pour le Brexit afin d'obtenir un meilleur accord lors d'un second référendum.
Renégocier une seconde fois et organiser un second référendum n'est pas une option pour les électeurs. Malheureusement, j'ai connu un certain nombre de couples qui ont entamé des procédures de divorce, mais je n'en connais aucun qui ait envisagé le divorce pour renouer leur vœu de mariage.
Et le chef du gouvernement ne s'est pas arrêté là, ajoutant n'avoir pour sa part pas d'autre projet que de servir au mieux les intérêts du pays, alors que la presse soupçonne le maire de Londres de vouloir lui succéder à la tête du royaume. L'âge de guerre est décidément déterré entre conservateurs et au sein du Parlement, entre pour et contre un Brexit, même si le 23 juin prochain, ce sont les Britanniques qui décideront, et pour l'instant, 48% d'entre eux disent vouloir rester dans l'Union, contre 33%.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Flore Vasseur, qui écoute Le Monde, qui le filme aussi et qui le décrit dans ses romans et dans ses articles aussi. J'ai sous les yeux, j'ai beaucoup de choses, hein, de vous, à vrai dire. Et les films que vous faites, là je parle de la télévision, d'Arte, vous le faites dans le cadre d'une société, d'une initiative qui s'appelle TED.
Alors en fait, c'est effectivement, les films actuels s'appellent TED Stories et ils sont nés d'un partenariat entre Arte, la chaîne de télévision, et les conférences TED. Les conférences TED, c'est une organisation qui existe depuis 30 ans, qui depuis 30 ans organise une à deux fois par an une grande conférence, jusqu'à très récemment, et puis même toujours maintenant, très prisée et assez sélecte, dans lequel, durant 5 jours, 70 conférenciers succèdent pour environ 18 minutes chacun, sur toutes les disciplines possibles. Ils ont été triés sur le volet, repérés partout dans le monde. Ils sont scientifiques, ils sont chercheurs, ils sont artistes, ils sont entrepreneurs, ils sont humanitaires, ils sont profs, peu importe leur discipline, l'idée est qu'ils ont quelque chose, une idée à partager pour le monde. Donc ça fait 30 ans que ça existe, ils essaient de tout mettre en ligne sur leur site TED.com qui aujourd'hui fait plus de 3 milliards de pages vues dans toutes les langues. Enfin, c'est une révolution, je pense vraiment. Ils apportent énormément de contenu et se battent dans cette guerre que l'on vit et que vous vivez certainement contre la médiocrité, donc ils ont vraiment un apport très important là-dessus. Et voilà, et cette série documentaire est née de ce souhait d'Arte et de TED de porter des choses à l'écran. Donc TED, c'est 18 minutes sur scène, sur fond noir avec un carré rouge. Et nous, ce qu'on propose, enfin, ce que l'émission propose, c'est de prendre une idée repérée à TED et d'aller la documenter sur place, là peu importe là où cette personne qui a eu cette idée vit, pour vraiment documenter l'impact de cette idée sur la communauté immédiate, l'itinéraire personnel de la personne qui a eu cette idée et sa portée générale. Le point est de faire à la fois le portrait d'une idée et le portrait d'une personne, puisque de mon avis, aujourd'hui, les bonnes idées sont partout. La question, c'est quand est-ce qu'on se met en marche? Qu'est-ce que ça coûte? Quel est le prix à payer? Et en fait, derrière l'idée, moi, c'est vraiment ça que j'essaye de voir, puisque je pense que c'est la question fondamentale de notre époque.
We're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries.
7 jours dans le monde.
Alors partons maintenant pour les États-Unis, Flore Vasseur, un pays que vous connaissez bien et sur un sujet que vous connaissez aussi, les primaires républicaines, l'élection présidentielle américaine. Primaires républicaines donc dans le Nevada et une nouvelle victoire du milliardaire Donald Trump, Washington mercredi, Jean-Louis Porté.
La grosse surprise de cette élection, c'est que les deux candidats cubains ont fait un bien moins bon score auprès de l'électorat hispanique que le milliardaire new-yorkais. Les latinos représentaient 9% de l'électorat du Nevada et sur ce pourcentage, Trump a obtenu 44% de leurs voix contre 29% à Rubio et 18% à Cruz. Un résultat que n'a pas manqué de souligner, en l'exagérant légèrement, le mania de l'immobilier, grand pourfendeur des immigrants clandestins.
Et vous savez ce qui me fait le plus plaisir, parce que je l'ai dit pendant longtemps, 46% des hispaniques ont voté pour moi. Je suis le numéro 1 avec les hispaniques.
Incroyable Mr. Trump, qui a déjà beaucoup plus de délégués que ses rivaux et qui devrait faire une riche moisson dans la douzaine d'États qui vont voter lors du Super Tuesday du 1er mars. Si Ted Cruz peut espérer ce jour-là pouvoir enlever son État, le Texas, Marco Rubio, qui a vraiment besoin d'une victoire, devra peut-être attendre le 15 mars pour avoir une chance de gagner dans le sien, la Floride.
Et puisque nous sommes aux États-Unis, il faut aussi souligner la demande adressée par Barack Obama au Congrès. Nouvelle demande de fermeture de la prison de Guantanamo. C'était, rappelons-le, une des promesses du candidat Obama en 2008. Restons sur le continent américain, mais plus au sud, Flore Vasseur, direction la Bolivie. Evo Morales ne pourra donc pas demeurer au pouvoir une décennie encore. La Paz, correspondance mardi de Reza Nurmagomedov.
Après deux jours d'incertitude, les résultats officiels du référendum confirment la victoire du non. Une victoire plutôt courte, 51,3 contre 48,7%, mais suffisante pour empêcher Evo Morales de rêver à gouverner la Bolivie jusqu'en 2025. Le oui ne l'a emporté que dans 3 des 9 régions du pays, à La Paz, Oruro et Cochabamba. Pour le président bolivien, la défaite est historique, lui qui en 10 ans avait remporté 3 élections présidentielles et un référendum révocatoire. Anticipant ces derniers jours un résultat final très serré, Morales avait fustigé les coups bas de la droite durant la campagne, faisant notamment référence aux accusations de trafic d'influence et de népotisme qui l'ont visé. Le président avait également assuré que, même en cas de victoire du non, la lutte anticapitaliste et anticolonialiste allait continuer. Son parti, le MAS, devra désormais lui trouver un successeur avant la prochaine élection présidentielle programmée en Bolivie fin 2019.
Suite de notre voyage, les électeurs iraniens votaient hier, vendredi, pour élire leurs députés et aussi les membres de l'Assemblée des experts chargés de nommer le guide suprême iranien. On vous en parle dans nos journaux ce matin. Écoutez un des reportages de notre envoyé spécial Daniel Valo cette semaine dans le Grand Bazar de Téhéran, par exemple.
Pas facile d'attirer la clientèle en cette veille d'élection. Pourtant, ce vendeur d'électroménager a disposé ses plus beaux produits sur la vitre de son comptoir. Des rasoirs et des tondeuses dernier cri de marque européenne ou américaine.
C'est plus facile d'importer des produits maintenant, notamment tout ce qui vient des États-Unis. Regardez cette tondeuse, elle est fabriquée là-bas. C'est beaucoup plus facile d'en avoir maintenant. Par contre, pour vendre les produits, c'est comme avant.
Malgré la levée des sanctions et l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, l'économie tarde à redémarrer et les vendeurs du bazar de Téhéran peinent à trouver des acheteurs.
Pour l'instant, la levée des sanctions n'a eu aucun effet. Regardez, maintenant, toutes les grandes entreprises, toutes les usines sont en difficulté et elles sont en train de fermer. À mon avis, ça va prendre du temps avant que l'économie aille mieux.
Pour ce vendeur, il est encore trop tôt pour juger des effets positifs de la levée des sanctions. Ce vendredi, il ira donc voter pour le camp réformateur et modéré. Il faut laisser du temps au président Rouhani, estime-t-il, pour que l'économie iranienne puisse enfin redémarrer.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Flore Vasseur, on va parler d'un de vos films, celui que vous avez réalisé en 2015, je crois que c'était en octobre 2015, et qui se passe aux États-Unis, qui est filmé aux États-Unis et qui fait le portrait d'un homme vraiment extrêmement intéressant.
Il s'agit,
et atypique.
Absolument. Il s'agit de Larry Lessig, un professeur de droit à Harvard, qui aujourd'hui doit avoir 54 ans, qui est extrêmement respecté aux États-Unis parce qu'il a beaucoup travaillé sur la thématique de l'Internet. Il a beaucoup légiféré, aidé à légiférer cet espace il y a déjà presque 20 ans maintenant. Et puis, il s'est lancé il y a 8 ans dans un combat qu'il estimait être le combat le plus important de toute sa carrière, qui était la lutte contre la corruption. Et pas la corruption, je vous donne 50 000 et vous me donnez votre chantier, mais contre la corruption endémique du système politique américain qu'on voit aujourd'hui. Vous avez parlé des primaires américaines.
C'est un cas d'école.
C'est un cas d'école. Et en même temps, force est de constater que dans les deux camps, les deux candidats qui aujourd'hui sont les plus prometteurs, sans jugement, mais disons qui semblent prendre le pouvoir dans leurs camps respectifs, sont des candidats qui se sont évertués à ne pas être financés par des donateurs privés. Bon, bref. Donc c'est un cas extrêmement atypique et complètement fou de ce qu'est capable de produire les États-Unis. Et donc Larry Lessig, il y a 8 ans, a décidé de se lancer dans la bataille contre la corruption. Il a commencé par faire ce qu'il savait faire, à savoir donner des cours à Harvard, publier des bouquins, faire des conférences. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et puis, il a perdu son plus proche ami il y a bientôt trois ans, 2 ans et demi, d'un suicide, un garçon qui s'appelait Aaron Swartz, qui, pour toutes les personnes qui connaissent l'Internet intimement, est juste un génie, juste un type incroyable et tellement visionnaire, et qui s'est suicidé d'impuissance en fait, puisqu'il a vu avant tout le monde ce qu'on voit aujourd'hui, et à savoir que l'Internet se retourne contre nous, que c'est un outil non d'émancipation des foules mais d'asservissement, que les États sont incapables de retenir cette tendance de la technologie à devenir, enfin nous, à devenir un outil de cet outil, et s'est suicidé d'impuissance, non sans avoir dit à Larry de s'attaquer à ce problème de la corruption. Et donc Larry Lessig a démarré un combat qui s'est arrêté un petit peu l'automne dernier.
Ah, un combat notamment contre les lobbies. Hein,
contre les lobbies,
les parlementaires notamment.
Absolument, il voulait, son point, lui, c'est de toucher la constitution américaine et de changer le système de financement des campagne électorale. Donc il veut faire un amendement à la Constitution. Il a essayé différents moyens, la loi, la mobilisation citoyenne. Il a même essayé d'être candidat aux élections présidentielles. Ça aurait pu potentiellement être quelque chose d'énorme, mais son propre parti, poussé par le camp d'Hillary Clinton, l'a bloqué dans sa possibilité d'accéder aux débats même télévisés qui sont la porte d'entrée, j'ai envie de dire, de n'importe quel candidat pour la primaire.
Alors si nous parlons, Flore, on va terminer cette première partie avec ça, de vos films, c'est qu'ils sont accessibles très facilement sur YouTube par exemple, on peut les voir. Alors celui-ci s'intitule
La rébellion du prof de Harvard.
Donc je vous conseille vivement de regarder ces films qui font une heure à peu près, 52 minutes, qui sont calibrés, et franchement, on y apprend beaucoup de choses, et en ce qui concerne ce personnage, Larry Lessig, on est vraiment surpris et déçu qu'il n'ait pas plus de poids, évidemment, dans la vie politique américaine. Pour l'instant, peut-être que ça va changer.
Pour l'instant.
Flore Vasseur, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, justement, et on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Pour revivre 7 jours d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Nous Nous sommes cette semaine en compagnie de Flore Vasseur, journaliste, documentariste, romancière. Dans quelques minutes, nous prendrons la route de l'Afrique. Mais tout de suite, Flore, l'actualité est française. Et il nous faut reparler, bien sûr, des réfugiés de Calais et de la décision du gouvernement d'en évacuer une partie. Fait notable, mercredi, la Belgique a décidé de contrôler ses frontières avec la France dans cette région afin de ne pas laisser les réfugiés entrer sur son territoire. Reportage à la frontière à Bredune, précisément, d'Alice Posicki.
Bonjour monsieur, vous avez la carte d'identité ?
La carte d'identité ?
Oui.
Un peu surpris, cet automobiliste français ne s'attendait pas à être contrôlé. La patrouille des trois policiers belges arrête chaque véhicule. Leur consigne est très claire.
Seulement pour les réfugiés. Les réfugiés doivent rester à la France. Hein.
À moins de 5 km de là, cette Française vient acheter des cigarettes dans la première station-service belge. Le coffre de son véhicule a été vérifié. Une bonne chose selon elle.
Moi, j'ai rien à me reprocher, mais si on peut contrôler ceux qui ont des problèmes, justement.
Vous parlez des migrants qui sont dans la jungle de
voilà,
Calais.
Parce que là, je vais m'en croiser encore tout à pied, là, 6-7, et bon, pourquoi ?
Les migrants dont elle parle viennent de se faire repérer à la frontière et marchent d'un pas lent sur le bord de la route. Parmi eux, Raad Seth, jeune Pakistanais de 16 ans, il a quitté la jungle de Calais au petit matin.
On est monté dans ce camion qui est là devant nous. Les policiers ont arrêté le chauffeur et ils nous ont dit de retourner en France. Je ne sais pas si c'est la police française ou belge. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont dit de retourner en France.
Raad et ses amis ont donc décidé de retourner à pied à Calais, situé à 50 kilomètres de là.
Les relations se tendent toujours plus au PS, et là nous parlons évidemment de politique. L'opposition à Manuel Valls grandit, à en juger par la tribune publiée par Martine Aubry et Daniel Cohn-Bendit, notamment dans le quotidien Le Monde. C'était mercredi, Valérie Gasse, ce jour-là.
Trop, c'est trop. La tribune signée par Martine Aubry commence comme un cri du cœur pour mettre en garde le gouvernement. Car selon les auteurs, ce n'est plus simplement l'échec du quinquennat qui se profile, mais un affaiblissement durable de la France. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la réforme du Code du travail. Après le pacte de responsabilité comparé à un marché de dupes avec le MEDEF, après le débat qualifié de désolant sur la déchéance de nationalité, après le discours jugé indécent de Manuel Valls sur les réfugiés, la loi El Khomri a provoqué chez les signataires du texte non plus de la déception mais de la colère. S'ensuit un réquisitoire sans concession sur les mesures envisagées, facilitation des licenciements économiques ou augmentation du temps de travail, qui se conclut par ces mots « pas ça, pas nous, pas la gauche ». Cette fois-ci, Martine Aubry prend donc la tête du mouvement de protestation contre la politique et la méthode de l'exécutif qui menace de passer en force. François Hollande, actuellement en tournée en Amérique latine, est visé, mais aussi bien sûr Manuel Valls, le Premier ministre auquel s'adresse ce message. Il ne suffit pas de se revendiquer du réformisme social pour en mériter le titre. La guerre est déclarée.
À noter aussi à droite, cette fois, une nouvelle candidature aux primaires, celle de Bruno Le Maire. Une semaine d'actualité, je suis sûr que la question des réfugiés vous intéresse, j'allais dire, hélas, Flore Vasseur.
Oh, je crois que n'importe quel auteur aujourd'hui se sent complètement appelé à essayer de décrire, comprendre, puis n'importe quel citoyen, j'imagine, à décrire, comprendre et savoir ce qu'il est possible d'anticiper et de faire. Ce qui me désole, outre la situation de ces personnes-là, c'est la réaction, bien sûr, de nos politiques qui, comme souvent, depuis quelques années, semblent découvrir le problème une fois qu'il est sur leur nez. Et c'est comme si, depuis le 11 septembre, finalement, on avait complètement arrêté de penser, tout en ayant enclenché une spirale qu'on ne sait plus arrêter. Le problème des migrants ne va pas se résoudre parce qu'on va fermer tel ou tel camp. C'est une problématique qui ne fait que démarrer, sur laquelle il faut préparer les populations, modifier nos façons de faire et de fonctionner. Et là, on ne répond que de façon hystérique. C'est pathétique, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on observe aussi facilement dans la finance, dans l'économie, et cette absence de vision, cette absence de recul de la part de nos plus hauts représentants est absolument dramatique.
D'ailleurs, vous vous posez souvent la question dans vos romans, par exemple, je pense notamment à la finance, la question du poids du politique face à la finance.
Bah, c'était effectivement.
S'il y a encore un poids, d'ailleurs.
C'était effectivement l'objet de le dernier roman que j'ai écrit.
En bande organisée, c'est
en
ça.
En bande organisée, qui effectivement, après avoir mon second livre parlait beaucoup de finances et de l'emprise qu'elle avait, qu'elle avait sur nous. Et le livre d'après, forcément, puisqu'un livre, c'est comme un fil qu'on tire, et puis à force de travailler, ben, en fait, on tire un fil, puis il y a d'autres questions qui surviennent et surgissent. Après avoir travaillé sur la finance et montré son emprise, j'avais envie de savoir pourquoi elle avait autant d'emprise sur nous. Et en fait, c'était pas très difficile à comprendre que, à un moment, le projet politique a fondu sur le projet économique, c'est-à-dire que faire croître le PIB est devenu l'unique objectif de nos gouvernements, parce que c'est devenu une façon de faire la guerre de façon pacifique. La puissance des nations se mesure aujourd'hui à sa richesse, à ses richesses, son PIB, qui n'est pas que de la richesse. Et donc, la finance est venue régler un problème politique qui était de continuer à faire croire le PIB dans une société qui était déjà saturée d'objets, etc. Et ça, on le paye très cher, et ils ont donné le pouvoir à la finance de façon tout à fait consciente. Et on en a pas fini de payer le prix.
Dites-moi, Flore, vous avez eu un accès de mégalomanie il y a quelques années, parce que j'ai vu sur votre blog, je conseille d'ailleurs aux auditeurs d'aller le lire, oui. Des pages entières intitulées « Si j'étais ministre des Finances » avec des pages, enfin plusieurs pages de propositions, mais alors très techniques.
Vous m'avez fait peur. Non, accès de mégalomanie tout à fait assumé, puisqu'effectivement un magazine qui se lançait à l'époque, très chouette revue qui s'appelle Charles, pour son premier numéro, a convoqué un certain nombre d'écrivains en leur demandant d'endosser le rôle de ministre. Le prix Goncourt de cette année était ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, je crois. Et moi, j'étais ministre de Finances et de l'Économie, et c'est vrai que j'ai un peu mis
vous
mes différents... J'ai fait
rôle
mon programme, voilà,
ouais.
Mais je crois pas que c'était complètement... Enfin, je me suis fait très plaisir. Voilà, j'ai hésité plusieurs fois à le montrer, mais les paroles des écrivains, vous savez, aujourd'hui sont très dévalorisées.
Non, au contraire, il faut écouter les écrivains, et il faut lire justement ces propositions qui sont extrêmement techniques et originales.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons pour le continent africain, Flore. D'abord en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec la naturalisation de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, visé, on le sait, par un mandat d'arrêt international. Abidjan mercredi, Anna Sylvestre.
Lors de leur publication, les quelques lignes sont passées quasiment inaperçues. Dans le journal officiel daté du 18 janvier dernier, deux courts décrets présidentiels annoncent que Blaise Compaoré et son frère, François, ont obtenu la nationalité ivoirienne. Les textes sont signés d'Alassane Ouattara, qui n'a jamais caché son amitié pour l'ancien président burkinabé. Des naturalisations que les autorités ivoiriennes ne souhaitent pas commenter. C'est une affaire strictement personnelle, réagit ainsi une source. Mais alors que l'ancien président burkinabé est depuis décembre visé par un mandat d'arrêt international, c'est bien son extradition qui semble désormais improbable. Comme résigné, à Ouagadougou, on estime que l'urgence est ailleurs. L'important pour la stabilité du pays, c'est surtout de neutraliser les anciens membres du RSP, déclarait ainsi Alpha Barry lundi lors de sa visite à Abidjan. Après l'extradition de Moussa Niébé, considéré comme un des fidèles de Blaise Compaoré, le ministre burkinabé des Affaires étrangères assurait qu'Alassane Ouattara s'était engagé à aider le Burkina Faso à arrêter les ex-soldats du RSP.
J'ajoute que l'un des fidèles gardes de l'ancien président Moussa Niébé, alias Rambo, recherché par la justice du Burkina, a été arrêté en Côte d'Ivoire et reconduit dans son pays. Les élections présidentielles et législatives au Niger, on vous en parle dans nos journaux ce matin. Écoutez ce reportage, c'était dimanche soir, un reportage de notre envoyé spécial Marie-Pierre Olfant lors du début du dépouillement.
Là, le fax est en train de sonner, donc vous voyez, simultanément, donc, il y a deux appels simultanés qui sont...
Nahadjo Amadouroufaï est chargé des télécommunications pour la CENI. Devant lui, deux fax pour recevoir les résultats des régions.
C'est un document qui vient de Caracara concernant les élections présidentielles.
Pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, ces informations ont aussi été recueillies quelques minutes plus tôt par téléphone par d'autres membres de la CENI.
Le travail continue son chemin. Nous avons une table de contrôle qui est composée de 4 personnes.
En amont et en aval, la procédure est longue et parfois lourde, reconnaissent les responsables de la CENI, qui aimeraient bien que sur toute la chaîne, on passe à la vitesse supérieure. Mais dans les communes, le travail est encore souvent manuel, explique Aliman Wanagali, chargé de récolter les résultats de la région de Tillabéri.
Certains pensent que ça traîne, mais en réalité, c'est vraiment difficile, compte tenu vraiment des moyens de bord sur lesquels les élections se passent. Parce que ce n'est pas la même chose qu'en Occident, où tout est numérique. Donc vraiment c'est difficile.
PND Staraya, nombre de voix 638, soit 30,96%. PSD Bassira, Nombre de voix 6, soit 0,29%.
Dès qu'ils sont validés par le président de la commission électorale, les résultats des communes sont ensuite annoncés un à un en français à la télévision nationale qui a installé son studio sur la scène du Palais des Congrès, puis traduit en 9 langues.
Ah, écoutez donc dans nos journaux et sur le site de RFI, autre scrutin mais à venir, celui-là au Sénégal. Je veux bien sûr parler du référendum du 20 mars prochain qui doit valider ou non une réforme constitutionnelle qui porte sur le mandat présidentiel. La campagne a commencé avec une expression en Wolof qui connaît un grand succès. Reportage de notre correspondant Guillaume Thibault.
Wach, wachet, c'est dire et c'est dédire.
Tagué sur les murs, refrain de l'hymne du front du non au référendum. Faire son wach, wachet est redevenu une expression à la mode, lancée à l'origine par Abdoulaye Wade, qui n'avait pas respecté sa promesse de ne pas se présenter une troisième fois à la présidentielle. L'expression a évolué ces derniers jours depuis l'annonce de Macky Sall de ne pas réduire son mandat en cours suite à la décision du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai répété, mais je me dédie. Laman Baye, professeur de lettres, rappelle le rôle fondamental de la parole donnée dans la tradition sénégalaise.
Quand on donne sa parole, c'est terminé. Si la tradition connaît le wach, la parole, on ignore fondamentalement le dédire, parce que la tradition ignore le wachet.
Autre rappel à la tradition, le front du non au référendum s'appelle également Niani Baina. Niani Baina, c'est un ancien chant traditionnel qui raconte le refus d'un village d'accorder l'hospitalité à un grand chef, Lat Dior. Un chant devenu hymne de la jeunesse du temps de Léopold de Sédar Senghor. Un chant repris aujourd'hui par ceux qui veulent s'opposer à Macky Sall. Explication avec le conteur Massamba Gueye.
Dans l'inconscient des jeunes, aujourd'hui, Niani Baina, c'est le chant de l'honneur. Ils disent que la primauté de la parole est au-dessus de la constitution.
L'expression Wahed et la chanson Niani Baina vont donc continuer à résonner jusqu'au référendum du 20 mars. Guillaume Thibault, Dakar, RFI.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un salut aujourd'hui à Mokhtar qui vit à Richartol au nord du Sénégal. Il écrit ceci. Grâce à votre bienveillante émission, je parviens à faire le tri de la pléthore d'informations tous azimuts que je reçois chaque semaine. Merci Mokhtar. Le but est donc atteint. Un salut à Joseph, à Elisabeth Ville, à Hassan à Tunis. Bonjour à Issouf à Koudougou, à Lamine et enfin à Christine à Tampa en Floride.
RFI.
Vous écoutez une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Flore Vasseur. Je salue aussi Diogène, il est acteur entre Bruxelles et Kigali, il est rwandais. Et il sera d'ailleurs l'invité Culture Mardi avec Sébastien Gédor. On va revenir à votre travail, Flore. Je voudrais qu'on parle d'un de vos films et du portrait d'un type là aussi assez formidable qui s'appelle Ney Turok. La question centrale du film et de son action, c'est « Et si le prochain Einstein était africain ?»
Oui, alors Ney Turok est un des plus grands cosmologues vivants. Il travaille beaucoup avec Stephen Hawking sur la théorie des cordes. Et il est sud-africain, blanc. Et il a deux parents qui ont été extrêmement actifs. Ben Turok, notamment, son père, extrêmement actif.
Militant anti-apartheid.
Ouais. Et ils ont vécu cette lutte corps et âme, puisqu'ils ont même été emprisonnés, chacun de ses parents. Et ils ont dû fuir l'Afrique du Sud et le régime de l'apartheid, alors que Neil était tout petit. Donc il est né en Afrique du Sud, et puis il a dû fuir, il a vécu l'exil, d'abord en Afrique, et puis en Angleterre, ce qui a été une punition pour lui, dit-il, où il a fait des études extrêmement brillantes, puisqu'il a fait Princeton, etc. Il est devenu à nouveau l'un des plus grands cosmologues vivants, tout en étant la tête dans les étoiles. Il y avait toujours quelque chose qui le retenait et le faisait regarder de côté à la fin de l'apartheid. Son père et sa maman sont retournés en Afrique du Sud, sont devenus députés. Ney Turok a revisité son pays et puis sa soif de comprendre le monde et de comprendre l'origine du monde se heurtait quand même à la réalité de son histoire et du monde dans lequel il venait, et le constat qui était que l'Afrique avait terriblement besoin de former sa jeunesse à des grandes carrières scientifiques. Et la conviction de Ben Turok, le père, sa foi dans l'Afrique, s'est transmise à son fils, il s'est appliqué à son champ, à savoir les mathématiques appliquées, et il a décidé que le prochain Einstein serait africain et qu'il y aiderait. Donc il a créé des écoles de mathématiques, une première expérimentale en Afrique du Sud, puis maintenant il y en a 5 ou 6, je crois, à travers l'Afrique. Il a décidé chaque année d'offrir à 50 très hauts potentiels, diplômés en mathématiques, une année de formation. C'est incroyable, ils vivent tous dans le même mini-campus.
Et ils représentent vraiment toute l'Afrique.
Ils représentent toute l'Afrique. Et c'est, il y a au moins 30% de femmes, donc il y a vraiment une exigence portée sur le fait de développer aussi des carrières scientifiques pour les femmes. Et l'idée, c'est d'offrir à ces enfants, parce qu'ils sont souvent très jeunes, un cursus qui leur permettra ensuite d'intégrer les plus grandes labos de recherche ou les grandes, plus grandes formations dans le monde pour faire des grands scientifiques. Donc il y en a beaucoup qui partent au MIT, en France beaucoup, en Allemagne, en Suède, pour des post-docs, pour des PhD. Et puis après, qui reviennent, c'est ça le pari, le plus souvent en Afrique, soit pour enseigner et eux-mêmes transmettre ces sciences et ces matières qu'ils ont pu développer au-delà de ce qu'ils avaient reçu, faire de grands scientifiques. Et il y a des histoires très belles, puisque l'un des anciens étudiants de Ames, puisque c'est comme ça que s'appelle cette école, a été celui qui a découvert la souche de Ebola au moment de la dernière épidémie. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux, très beau, porté par une foi dans les sciences, mais aussi une foi dans l'homme.
Et donc, pour bien comprendre, il faut regarder votre film qu'on peut voir sur YouTube aussi.
Absolument. Alors, c'est un long
diffusé
lien.
Diffusé sur Arte.
Bien sûr. Donc, vous tapez TED Stories, Neil Turok, et vous trouverez le film, effectivement.
Et encore une fois, je le recommande vivement.
Sept jours en Afrique.
Alors, autre instantané de l'actualité africaine, Flore Vasseur, cette semaine, c'est l'image de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans un village de déplacés dans le Nord Kivu, précisément. Reportage de notre envoyé spécial, Sonia Rollet.
Une classe de primaire intimidée et face à elle, Ban Ki-moon, entouré de photographes.
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû fuir ma ville natale. Et les Nations Unies sont venues. Ils nous ont apporté de la nourriture, de l'eau, des livres de classe, des stylos. J'ai dû étudier à même le sol. Mais je suis devenu maintenant secrétaire général des Nations Unies. Vous y croyez, vous? L'un d'entre vous pourrait devenir secrétaire général. Le président du Congo, votre pays.
Ban Ki-moon leur demande de garder espoir et de travailler dur, mais cette visite crée surtout de l'espoir chez le directeur de l'école.
Nous espérons qu'ils puissent peut-être aller parler au gouvernement de payer pour nos enseignants, mais aussi de construire pour nous un beau bâtiment, mais aussi de nous apporter un centre de santé pour les soins de nos enfants.
Le secrétaire général de l'ONU se met ensuite à servir des repas aux enfants, foufou et haricots. Un officier de l'armée congolaise filme avec son téléphone portable. Il n'en croit pas ses yeux.
Les gens croient que Ban Ki-moon, c'est le petit Dieu. Et mais il voit maintenant aucun officier, soit aucune autorité qui vienne partager avec les enfants pareil.
C'est la première fois que vous voyez ça.
La première fois.
Ban Ki-moon qui s'est aussi rendu au Burundi et à Kinshasa. Parlons maintenant de la déforestation en Afrique. L'organisation Greenpeace est inquiète en effet dans un rapport publié cette semaine. Elle s'intéresse notamment à l'extension des plantations d'EVA et de palmiers à huile exploitées par un groupe luxembourgeois précisément, Stanislas Dachimillet, mercredi.
De plus en plus d'investisseurs, de planteurs et de courtiers de palmiers à huile et d'EVA s'intéressent beaucoup à l'Afrique et particulièrement au bassin du Congo. Le rapport que Greenpeace vient de sortir pointe une entreprise, la holding luxembourgeoise Socfin. L'ONG s'adresse aussi à Vincent Bolloré, très actif en Afrique. Cécile Lebas, chargée de campagne forêt chez Greenpeace France.
Le groupe Bolloré en fait est actionnaire à hauteur de 38,75% exactement de la Socfin. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on s'adresse directement à Vincent Bolloré pour lui demander de s'engager contre la déforestation et de faire pression sur cette entreprise, la Socfin, pour qu'elle aussi, elle puisse s'engager contre la déforestation.
Les discussions n'avancent plus. Selon Greenpeace, l'ONG est en contact avec la Socfin depuis plus d'un an et avec le groupe Bolloré depuis plus de 6 mois. En République démocratique du Congo, par exemple, la Socfin aurait une concession de 29 000 hectares, dont 6 000 plantés. Environ 20 000 hectares de forêt dense sont donc potentiellement menacés.
Jusqu'à présent, la Socfin, elle refuse de publier une politique zéro déforestation qui réponde aux standards les plus élevés.
De son côté, Vincent Bolloré Botantouche dit n'être qu'un facilitateur du dialogue entre la Socfin et la société civile.
Une fois n'est pas coutume, nous allons parler culture, Flore Vasseur, dans ce panorama de 7 jours d'actualité, pour conclure en quelque sorte. En effet, il nous faut revenir sur la rentrée littéraire au Mali. La littérature africaine a été en vedette toute la semaine à Bamako. Bamako, d'où nous a appelé notre correspondant David Bachet.
Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ce n'est pas un auteur africain, mais le chantre indien de la résistance non-violente, Gandhi, qui est l'auteur de ces mots. Ibrahima Aya, co-directeur de la rentrée littéraire du Mali, explique ce thème.
Nous considérons que dans le contexte actuel, fait de crise, pas seulement au Mali, mais à travers le monde entier, c'est important que chacun s'y mette. C'est aussi un appel à un engagement d'abord au niveau personnel, au niveau aussi de la collectivité. Bien sûr, le livre n'apporte pas de réponse, mais il permet de poser des questions et peut-être d'ouvrir des horizons.
Dans cette démarche, une large place est consacrée aux grands auteurs africains, Ibrahima Aya.
Nous mettons aussi en avant beaucoup de grandes figures de la littérature africaine mondiale, notamment un hommage à Seydou Badian Kouyaté, à Serge Bar, à Sonny Labutansi, à Tchouni Achebe. Ce clin d'œil à des grandes figures, c'est aussi une façon de rappeler aux jeunes que des combats ont été menés, qu'il faut encore en mener à l'image de ces grandes figures-là, qui nous ont aidés à émerger.
Café littéraire, conférences, expositions, débats, la capitale malienne accueille une trentaine d'événements en 4 jours.
Moralité, il faut lire, notamment les romans, par exemple, de Flore Vasseur, qui est notre invitée cette semaine, ce samedi, et avec laquelle nous parlons de l'actualité, mais aussi de son travail, qui est lié aussi à l'actualité. Et je voudrais qu'on conclue, c'est le grand écart que nous faisons chaque semaine, un grand écart géographique, Flore, de votre reportage, cette fois en Colombie, sur une démarche incroyable de publicitaire qui essaie de... Je veux dire de débaucher en fait des membres de la guérilla des FARC.
Ils essayent de démobiliser les FARC par des campagnes de communication qui sont extrêmement, qui sont redoutables,
qui sont très ciblées, très étudiées.
Et qui sont alors voilà, c'est il y a 8 ans le gouvernement colombien s'est rendu compte qu'après près de 50 ans de conflit, 250 000 morts, près de 3 millions. Presque 4 millions de déplacés. Les moyens coercitifs de la guerre ne fonctionnaient pas pour terminer ce conflit avec les FARC qui a touché chacun des Colombiens et qui touche chacun des Colombiens dans son âme et dans sa famille. Donc ils ont tout essayé et il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas essayé, c'était la communication, mais pas la communication de guerre habituelle, stigmatisante. Vraiment la publicité dans tout ce qui est là de plus pointu, de plus sophistiqué, parfois de plus manipulatoire. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui vante les mérites de la communication. Je pense que ça nous fait beaucoup de mal, mais que c'est un outil qui peut aussi servir à autre chose qu'à nous aliéner. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc le gouvernement est venu les voir et ils ont pris le sujet à bras-le-corps comme si c'était une marque lambda, comme si c'était une marque de soft drinks, pour pas les nommer. Et ils ont appliqué leur méthode de publicitaire, à savoir commencer par connaître et à interroger la cible. Donc la cible, leur cible à eux, c'est les guerriers aux FARC. Donc ils ont passé peut-être... Enfin, je sais pas combien de mois, mais au moins, ils ont fait au moins 100 entretiens qualitatifs très poussés avec des anciens, enfin, des démobilisés, pour comprendre comment ils vivaient, qu'est-ce que c'était de faire, d'être dans le conflit FARC, pourquoi ils y étaient allés. Donc, ils ont essayé de comprendre leurs besoins, leurs aspirations, leurs manques, leurs rêves. Et ils sont arrivés avec ce à quoi les publicitaires tendent à chaque fois qu'ils essayent de vous vendre une voiture, c'est de comprendre quel est votre besoin. Et ils l'ont défini. Et la situation des FARC, c'était, un guérillero, c'est autant prisonnier de la guérilla que l'otage qu'il surveille. Et ils ont créé des campagnes de publicité qui sont incroyable d'efficacité pour sortir les guérilleros de la jungle un par un. Et ils ont fait des opérations qui s'appellent d'ailleurs du guérillero marketing et qui ont consisté en, par exemple, éclairer une partie de la jungle à Noël pour rappeler que c'est Noël. Donc, ils ont arrêté les combats pendant une journée. Ils ont demandé aux soldats de les aider à mettre des guirlandes autour de certains arbres à côté de campement FARC, de mettre des petites cellules qui déclencheraient les guirlandes au moment du passage des FARC à côté de cet arbre. Donc la nuit, le FARC qui faisait sa ronde passait à côté de l'arbre. Et l'arbre se mettait à clignoter comme un sapin de Noël et il y avait un petit message qui disait « Si Noël est capable de venir jusque dans la jungle, c'est que tu peux rentrer chez toi, rentre chez toi. » Et en 8 ans, ils ont fait 500 campagnes comme ça, tout y est passé, la Coupe du Monde de foot, le tour cycliste, la fête des mères, Noël, la nouvelle année, ils ont contribué à démobiliser 17 000 FARC.
Oui. Alors le problème, c'est que ça coûte relativement cher, mais c'est efficace, non ?
Mais ça coûte pas plus cher que des armes. Hein.
Oui,
même beaucoup moins cher que des armes, et surtout beaucoup moins cher que des vies.
Sûr. Merci Flore Vasseur de nous avoir parlé de votre travail. Alors ce documentaire, La publicité Armes pour la paix, je crois que c'est son titre, sera diffusé sur Arte le 1er mars, c'est-à-dire mardi prochain. On apprend plein de choses et on est face à une initiative très originale, vraiment très originale.
Et j'espère surtout qu'on s'en servira, parce que même si la Colombie
ça peut donner en plus
n'est
des
pas
idées à d'autres,
la situation de la France aujourd'hui, la question de savoir comment on démobilise des jeunes, souvent embrigadés, est quand même une question un tout petit peu fondamentale en ce moment.
Oh combien. Merci Flore.
Merci
Flore
Vasseur.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée. Nous parlerons d'espoir justement avec nos deux invités, le philosophe Roger Paul Droit et la journaliste Monique Atlan. Ils viennent d'écrire un livre là aussi que je conseille, qui s'intitule « L'espoir a-t-il un avenir ?» Bonne question Flore. Nous l'espérons, nous en sommes sûrs même. Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI Bien-Sûr.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.